Europe 1.
L'esprit est le contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux.
Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, Lévis,
bonjour Stéphane.
Et celui qui est avec nous aujourd'hui, notre globe-trotteur de l'histoire, bonjour Gavin Clemente-Ruiz.
Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver comme chaque après-midi sur Europe 1 pour vous raconter l'histoire sans se la raconter, en compagnie de trois personnages qui ont un point commun. Aujourd'hui... Eh oui, ma chère Clara, personne. Ils croient en leur sœur comme personne, personne. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par le poète, dramaturge et diplomate Paul Claudel, qui, loin de ce qu'on a pu dire et écrire, a cru en sa sœur Camille, Camille Claudel, au destin tragique que l'on connaît. Puis je vous raconte la danseuse Isadora Duncan, qui a non seulement cassé les codes de la danse classique, mais l'a fait accompagnée d'Elisabeth, une sœur restée dans l'ombre, avec qui elle partageait la même vision éclairée du métier. Et après les morts, la vivante, c'est vous, Jean-Luc Lemoine, qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, dont on a déjà entendu parler, qu'on a surtout entendu chanter, et on ne s'en lasse jamais, la formidable Clara Luciani.
C'est hallucinant quand vous dites Clara Luciani, il y a tellement d'amour dans votre voix.
Même pas imaginer.
Oui, on va parler de Clara qui croit en sa sœur comme personne et qui nous a même piqué le titre de notre émission du jour pour en faire une chanson.
Je crois plutôt que c'est nous qui lui avons piqué, comme vous dites.
Ah oui, bah dans ce cas-là, que ça reste entre nous.
Vous savez, je la connais bien, mais enfin, je vous assure, elle ne vous en voudra pas. Alors, eux, en revanche, je les connais encore mieux. D'abord... celle qui nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, c'est Clémentine Portier-Caltenbach, qui est une sœur aussi.
Exactement, et je vais vous parler moi aussi d'une sœur, Pauline Bonaparte, la sœur préférée de Napoléon. Il veillait sur elle comme le lait sur le feu, car elle était très belle.
Elle était le feu surtout.
Et oui, voilà, et très sensuelle. Alors là, pour le coup, lui, il n'a jamais cru qu'elle puisse être fidèle, et à juste raison, parce que toute sa vie, elle a quand même trompé sans vergogne ses maris comme ses amants.
Oui, bah, toutes ses sœurs étaient un peu... La Caroline n'était pas mieux.
Ah oui, elles avaient la cuisse légère. Oui.
Bah on les félicite d'avoir de la légèreté de leur cuisse.
Personnellement. Oh, l'autre obsédé du régime.
Mais quoi.
La cuisse légère, je pense, ne fait pas référence à la...
Merci, à la légèreté de la merci. Légère. Vous êtes bien aimable, oui. Cher
on
David,
avait compris
de me préciser.
Pas Clémentine. Je ne sais pas.
Bon, bref. On lui remonte aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession, souvent la sienne, c'est David Castello-Lopez.
Oui. Et aujourd'hui...
De quoi nous parlez-vous?
Des montagnes russes. C'est pas du tout une obsession personnelle. Je les hais.
Ah, moi aussi.
De toutes mes forces.
Attendez, on parle pas de vous là pour le moment, Clémentine.
Oui, mais c'est un cri du cœur.
Je les hais de toutes mes forces. Oui.
Mais vous en parlez quand même.
Je vais en parler quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui les aiment. Voilà,
oui,
ça concerne tout le monde.
Alors, savez-vous, les origines, c'est dans toute fin d'émission.
Oui, j'ai cette information.
Oui.
Ouais.
Juste avant, comme dirait l'autre. Mais à quelle époque, ça s'est passé dans le passé. Aujourd'hui, on remonte en l'an 900 et on part aux États-Unis avec vous, Gavin Clemente-Ruiz, à la découverte de Chaco Canyon.
Exactement, c'est un site archéologique précolombien qui n'est donc pas en Colombie, considéré comme un lieu sacré.
Très bien, mais à quelle époque, ce sera tout à l'heure, vers 17h40.
Et un peu avant, il y aura ça. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Pendant la guerre d'Irak, on torturait les prisonniers avec du Britney Spears. Bah moi, je torture tous les jours Stéphane Bern avec le générique du quiz Bern to be alive. Mais à chaque question, vous frôlez l'humiliation. On le sait, Stéphane.
Oui.
Mais tel un chat égyptien, vous retombez toujours sur vos pattes.
Vous n'oublierez pas de faire le plein de pâté hein, pour le chat. Mais pour l'heure, je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
L'une manie la glaise, l'autre les mots. Parce qu'il a donné son accord pour que sa sœur soit internée dans un asile d'aliénés, il est en partie jugé responsable du destin tragique de la sculptrice. Mais ce n'était pas tout à fait la vérité. Je vous raconte maintenant celui qui croyait en sa sœur Camille comme personne, Paul Claudel. Jeune Romain ou mon frère. C'est le titre d'une sculpture en plâtre patiné réalisée par Camille Claudel vers 1882. On peut l'admirer au musée qui lui est consacré à Nogent-sur-Seine, entre Troyes et Paris. Ce jeune Romain, son frère, c'est Paul Claudel. À ce moment-là, il a 13 ans, elle en a 17. Mais au lieu de le prendre de haut, c'est ce que font la plupart des aînés, Camille l'exalte en héros. Elle le représente en Romain, dans un style néo-florentin, le regard sérieux, les lèvres serrées, une toge drapée sur les épaules. Paul fera de grandes choses, elle en est certaine. Oh, lui aussi, d'ailleurs. Du haut de ses 13 ans, Paul Claudel a déjà de grandes épopées dans la tête. Si elle représente aussi sa mère, Louise Athanaïs, et sa sœur cadette Louise, c'est bien Paul que Camille Claudel va le plus souvent représenter dans son œuvre. Les enfants, qui grandissent ensemble dans leur maison d'enfance de Nogent-sur-Seine, reçoivent la même éducation. Voici ce qu'en dit Paul.
« J'ai suivi l'enseignement d'un professeur excellent qui s'appelait Colin. Il m'a appris le latin, l'orthographe et le calcul. Enfin, tout ce que j'en sais, d'une manière absolument solide et fondamentale qui ne m'a jamais quitté, simplement parce qu'il avait de bonnes méthodes, qu'il s'occupait spécialement de nous et qu'il avait trouvé moyen de nous rendre l'étude intéressante. Et puis alors, de temps en temps, il nous lisait des textes qu'on ne lit pas d'habitude aux enfants et qui nous enthousiasmaient, ma sœur et moi. »
Pour Paul et pour Camille, la famille Claudel déménage à Paris en 1881. À chacun son argument. Camille veut se consacrer tout entière à la sculpture. Elle suit les enseignements à l'Académie Calarossi, puis s'établit ensuite dans un atelier avec d'autres femmes artistes à Paris où elle reçoit la visite d'Alfred Boucher, puis d'Auguste Rodin, qui devient son maître et son amant. Elle collabore régulièrement avec lui et participe à deux de ses monuments, la Porte de l'Enfer et les Bourgeois de Calais. Paul Claudel, lui, intègre le prestigieux lycée Louis-le-Grand. Mais c'est dans un tout autre endroit qu'il a une révélation. À Notre-Dame de Paris, le soir de Noël 1886. « Mon cœur fut touché et je crus », racontera-t-il. Il se convertit dans la foulée. La religion sera centrale dans ses écrits. Très inspiré par la poésie d'Arthur Rimbaud, il écrit ses premières pièces de théâtre, « L'Endormi » et « Tête d'or ». Mais n'imaginez pas les deux frères et sœurs faire les choses séparément. Paul introduit son aîné au cercle symboliste parisien. Et en retour, Camille initie à l'art japonais qu'elle découvre à l'exposition universelle de 1889. Les arts du Japon les inspirent tous les deux, lui sous sa plume et elle entre ses mains. En parallèle de ses activités d'écrivain, Paul est aussi diplomate, brillant qui plus est. Reçu premier au concours des affaires étrangères, il est nommé vice-consul à New York. En 1893, c'est le début d'un long exil. Contrairement à son voyageur de frère, Camille Claudel quitte plus rarement son atelier. Rodin lui fait non seulement des infidélités, mais elle souffre terriblement que son œuvre soit constamment associée à la sienne. Alors, lors du départ de son frère pour l'Amérique, Camille lui écrit une longue lettre accompagnée de croquis, une lettre dans laquelle elle développe ses projets. « Qu'en dis-tu ? C'est à toi seulement que je confie ces trouvailles. Ne les montre pas. » C'est une véritable déclaration d'indépendance. Camille Claudel ne veut plus faire du Rodin. Elle s'éloigne, ou plutôt se libère, de l'influence de son ancien maître et s'apprête à vivre une période très prolifique au niveau artistique. Paul Claudel aussi vit un chagrin d'amour. Après 4 ans de relation avec une femme mariée et mère de 4 enfants, à qui il vouait un amour absolument puissant, pour reprendre ses mots, celle-ci disparaît subitement, Rosalie Vetch. Un nom qui lui entra longtemps. Mais il parvient à exorciser son désespoir en couchant ses aventures sur le papier. En résulte un drame en 3 actes, Partage de midi, qui deviendra l'une de ses pièces les plus célèbres. Le frère et la sœur échangent personnellement, mais aussi artistiquement. En 1905, Camille réalise son buste de Paul Claudel à 37 ans. Paul, lui, rédige un article élogieux sur sa sœur, intitulé « Camille Claudel, statuaire ». Mais l'état de santé mentale de sa sœur le hante. Il en parle souvent dans son journal. Depuis 1898, Camille Claudel n'a plus de contact avec Rodin et vit une véritable descente aux enfers. Elle reçoit de moins en moins de commandes, les factures s'accumulent, elle en est sûre. C'est une vengeance de son ancien amant. Elle soupçonne Rodin et sa bande de comploter contre elle. La paranoïa est là. Son atelier de l'île Saint-Louis est un vrai bazar. Au milieu des ordures, on trouve des débris de sculpture. Dans des excès de folie, la sculptrice jette ses œuvres. Elle se barricade et vit dans l'obscurité avec ses chats. Les infirmiers qui viennent la chercher en mars 1913 n'ont d'autre choix que de passer par la fenêtre. Sa mère et son frère Paul ont signé un certificat d'internement. À 48 ans, Camille Claudel rejoint l'asile de Villévrard, Deux ans plus tard, elle est transférée à l'asile de Montevergue, près d'Avignon. Paul lui rend visite, 12 fois, en 30 ans. Est-ce peu ? Rappelons-le, Paul est diplomate. Ses fonctions l'obligent à parcourir le monde. Au cours de sa brillante carrière, il passe par Copenhague, Prague, Francfort, Hambourg, Rio de Janeiro. Au titre d'ambassadeur de France, il séjourne à Tokyo puis à Washington avant d'achever sa carrière à Bruxelles en 1936. Pendant ce temps, Camille n'a pas bougé de Montevergue. Elle se promène dans le parc, lit, écoute de la musique. Le rythme de leur vie n'a jamais été aussi décalé. Paul s'en veut, il ne cache pas sa culpabilité dans son journal. Mais Camille, de son côté, ne semble pas lui en vouloir. En septembre 1943, lors de sa dernière visite, elle l'appelle avec tendresse « mon petit Paul ». Un mois plus tard, Camille Claudel disparaît et emporte avec elle sa folie, mais aussi son génie. Un mois après la disparition de sa sœur, Paul Claudel connaît un flamboyant succès. Sa pièce, « Le soulier de satin », fait un triomphe à la Comédie-Française. 3 ans plus tard, alors qu'il n'a pas posé sa candidature, il est élu à l'Académie française. La rançon de la gloire, c'est la mélancolie. Le génie de sa sœur lui apparaît plus que jamais. Les 6 œuvres capitales de Camille Claudel, l'abandon, la valse, la vague, l'âge mûr, les causeuses ou bien Clotho, ne sont pas le fruit de l'influence de Rodin. Il va le faire savoir. En 1951, Claudel est à l'initiative d'une première rétrospective des œuvres de sa sœur et lui consacre un texte dans le catalogue de l'exposition où affirme l'autonomie de son art en écrivant
« L'œuvre de ma sœur, ce qui lui donne son intérêt unique, c'est que tout entière, elle est l'histoire de sa vie. »
Au sujet de l'âge mûr, où Camille a représenté sa rupture avec Rodin, Paul écrit ces mots
« Cette jeune fille nue, c'est ma sœur Camille, implorante, humiliée, à genoux et nue. Tout est fini. » Et savez-vous ce qui s'arrache à elle en ce moment même sous vos yeux ? C'est son âme. C'est tout à la fois l'âme, le génie, la raison, la beauté, la vie, le nom lui-même.
Une photographie marque les esprits et scelle peut-être la réconciliation. On peut y voir Paul Claudel enlaçant un buste de sa sœur, sculpté par Auguste Rodin. Quand on entend ces portraits d'artistes ayant sombré dans la folie, Camille Claudel n'est pas un cas isolé, on peut penser que la vocation artistique est une malédiction. En 1954, un journaliste a posé la question à Paul Claudel. Le poète a alors 86 ans, toute sa tête, et dans celle-ci, le souvenir de sa sœur, qui ne l'a jamais quitté. Écoutons-le.
Dans ma propre famille, j'ai eu un exemple terrible en la personne de ma sœur Camille, qui était une femme de génie, d'une beauté et d'un talent extraordinaire, et qui n'a rencontré que le désespoir et finalement la folie.
Un an après, Paul Claudel disparaissait lui aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Paul Claudel avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir une conservatrice qu'il connaît bien. Bonjour, Cécile Bertrand.
Bonjour.
Cécile Bertrand, vous êtes conservatrice en chef du musée Camille Claudel. Vous avez été commissaire d'une exposition « Camille et son frère Paul » en 2018. Camille Claudel, Paul Claudel, le rêve et la vie. Qu'est-ce que... elle a d'unique pour vous cette relation entre deux.
C'est vraiment un cas très singulier parce qu'on a là un frère et une sœur qui, chacun dans leur domaine, sont devenus de magnifiques artistes, de grands artistes. Et ils ont ce lien qui est à la fois personnel, familial, et en même temps cette culture commune, partagée, que ce soit les livres qu'ils ont découverts avec le professeur Colin ou l'art japonais que Camille a fait découvrir à Paul, les cercles symbolistes dans lesquels le poète a introduit sa sœur. Et cette culture commune va aussi se matérialiser dans leurs œuvres et notamment dans les portraits que Camille va réaliser de Paul, mais aussi dans les magnifiques textes que Paul va écrire sur les œuvres de la sculptrice.
En tant que conservatrice du musée Camille Claudel, on se doute que vous connaissez la vie de l'artiste sur le bout des doigts, mais malgré tout, est-ce que vous avez fait de réelles découvertes sur les liens qui unissaient Camille et Paul Claudel ?
Il y avait une œuvre de Camille Claudel qui me fascinait, mais en même temps, je ne comprenais pas pourquoi. On avait acquis une petite tête en plâtre intitulée « Tête de vieille aveugle chantant ». Et juste après, j'ai lu « La jeune fille violaine », la pièce de Paul Claudel, pour préparer l'exposition. Et là, j'ai compris en fait ce qui me fascinait. Après des années, Violaine retrouve sa sœur, Mara, et entre-temps, elle est devenue aveugle. Et Mara prend peur du regard de sa sœur. Elle lui dit Tu me regardes alors que les aveugles n'ont pas de regard. Sans remuer les yeux, tes yeux me suivent. Détourne de moi ses yeux noirs et vides. Et là, j'ai compris que ce qui me fascinait dans l'œuvre de Camille Claudel, c'est le regard de l'aveugle, des yeux qui ne voient pas, mais pourtant qui peuvent avoir une puissance incroyable dans cette œuvre de Camille Claudel.
Cette exposition dont nous parlait Stéphane s'est tenue à Nogent-sur-Seine, ville dont vous nous dites qu'elle s'est progressivement, c'est là que s'est progressivement dessinée la vocation de sculpteur de Camille et que se sont solidement construites les bases de l'éducation de Paul. Qu'a-t-on comme témoignage sur leur enfance? Est-ce que ça a été une période heureuse ou pas? Et comment ça a pu influencer leurs œuvres respectives?
Paul Claudel a raconté cette enfance et il en fait un récit en fait qui est assez contrasté. À la fois, il dit qu'il se disputait beaucoup, que ce soit les parents, les enfants, les parents avec les enfants. Il parle aussi de l'ascendant cruel que sa sœur a exercé sur ses jeunes années. Et il décrit une Camille, qui d'ailleurs s'est confirmée par la suite, extrêmement volontaire, énergique, mais du coup aussi despotique. Et ça a été difficile à vivre pour Paul Claudel. Mais en même temps, en effet, c'est aussi le moment où Paul a découvert la littérature, avec Camille d'ailleurs, hein, toujours tous les deux ensemble. Et puis c'est aussi le moment où Camille commence la sculpture et elle embarque Paul dans cette découverte avec elle. Paul a vraiment été partie prenante de ses premiers pas de sculpteur de sa sœur.
Je suis revenu dans le récit sur les influences réciproques entre Camille et Paul Claudel, notamment sur l'art japonais. Est-ce que Paul Claudel a été beaucoup influencé par sa sœur? C'est d'autant plus touchant qu'il a été évidemment un de nos grands ambassadeurs de France à Tokyo.
Absolument. Paul raconte que c'est vraiment sa sœur qui lui a fait découvrir l'art japonais et qui a fait naître chez lui ce désir d'Extrême-Orient, dont on sent certainement même que ce désir est à l'origine de sa vocation de diplomate. Et quand Paul va être ambassadeur au Japon, il va vraiment peut-être même aller encore plus loin que sa sœur dans cette compréhension de la culture japonaise en l'étudiant de près, en étudiant notamment toutes les formes traditionnelles du théâtre japonais. Il va écrire des textes très, très sensibles et très approfondis sur cette culture. Je pense aussi à un ouvrage poétique, Les 100 phrases pour éventail, où il concilie la tradition d'Occident et d'Orient, la tradition littéraire d'Orient et d'Occident, avec ce grand Leporello, où il compose et calligraphie lui-même des haïkus en regard de caractères japonais qui sont calligraphiés par des artistes japonais.
Vous parliez d'une sœur despotique, mais elle a aidé Paul Claudel aussi, puisque vous expliquez qu'elle l'a aidé grâce à ses relations, à passer le concours des affaires étrangères, et donc à devenir le grand diplomate qu'il est devenu.
Oui, bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre. Elle a été un soutien très solide pour son frère. Il ne faut pas oublier qu'elle est l'aînée. Et donc, quand Paul Claudel commence sa carrière, elle a déjà un certain réseau qui lui permet de l'aider. À sa demande, Auguste Rodin rédige l'une des lettres dont il a besoin pour se présenter au concours des affaires étrangères. Et puis, en tant qu'écrivain aussi, elle le soutient. On sait notamment que c'est grâce à elle qu'il publie certains de ses textes. Elle intervient auprès de Mathias Morhardt, qui était critique, un des grands soutiens de Camille Claudel comme artiste, mais à qui elle a demandé aussi de jouer de son réseau de journalistes influents pour publier des textes de Paul Claudel.
Elle le soutient comme écrivain, mais de son côté à lui, quel est le plus bel hommage littéraire qui lui est rendu selon vous?
Ah, il a écrit des textes magnifiques sur l'œuvre de sa sœur. Le plus beau texte, le plus long aussi, c'est certainement celui qu'il a écrit sur l'âge mûr, œuvre majeure de Camille Claudel. En tant que frère, mais aussi en tant que poète qui avait une grande sensibilité, des mots aussi pour partager cette sensibilité, il était peut-être le mieux placé pour comprendre l'œuvre de sa sœur. Il la comprend aussi d'un point de vue plastique, esthétique. Par exemple, il parle de la légèreté des sculptures de Camille Claudel, ce qui, pour une sculpture, n'est pas commun. Et sur l'âge mûr, il va avoir cette description très poétique qu'on lui connaît. Il va aussi faire de cette œuvre une allégorie de la vie de sa sœur, de l'espérance trahie, dit-il, à la fois de cette histoire d'amour impossible avec Auguste Rodin, mais aussi de cette carrière qui a connu une ascension fulgurante et puis qui finalement va s'étioler quand Camille Claudel va se trouver dévorée par la maladie et quand son aspiration va se tarir.
Mais c'est une affection entre frères et sœurs puissante et partagée, parce que à l'inverse, lui lui rend hommage dans ses écrits, mais il est le personnage qu'elle a le plus représenté en sculpture. Qu'est-ce que nous dit ce jeune Romain sous les traits duquel on reconnaît son frère?
C'est une œuvre vraiment extraordinaire. On a du mal à se rappeler quand on la voit qu'à ce moment-là, Paul Claudel n'a que 13 ans. Et elle ne le représente pas du tout comme on pourrait imaginer un portrait de tendresse, d'enfant joyeux. Pas du tout. Il a le regard ferme, sévère, impérieux. C'est presque un empereur romain. Alors que Petit n'avait pas encore écrit une seule ligne, on a l'impression que déjà sa sœur pressent toute l'ampleur de l'œuvre littéraire qu'il porte en lui et qu'elle concentre toute cette promesse de l'œuvre qui va advenir dans le regard impérieux de ce buste.
Marie-Victoire Nantais, petite fille de Paul Claudel, commence son livre « Camille et Paul Claudel, ligne de partage » ainsi. Ils ont grandi ensemble, ils se sont parlé, écrit, ils se sont disputés, soutenus, éloignés, perdus de vue, retrouvés. Selon vous, est-ce qu'il y a eu des cassures, des ruptures dans leur relation?
Alors, on n'a pas forcément de témoignages directs, concrets, mais je pense que forcément, il y a quelque chose qui a dû les séparer, c'est la religion. Vous avez évoqué la conversion de Paul à l'âge de 18 ans et la manière dont ensuite la religion a été vraiment un pilier dans sa vie, y compris dans sa vie littéraire. Alors qu'on sait que Camille Claudel, ça ne l'intéressait pas du tout. Elle avait même plutôt une attitude un peu moqueuse envers la religion. D'un autre côté, il y a eu aussi l'éloignement géographique. À partir de 1893, Paul part pour les États-Unis pour suivre sa carrière de diplomate. On a là cette magnifique lettre où Camille Claudel lui fait part de ses projets en cours et on devine qu'elle poursuit les conversations qu'ils avaient quand ils étaient ensemble à Paris et quand Paul venait lui rendre visite dans son atelier. Et on sent que là, elle a perdu un confident en fait et que les lettres ne vont pas pouvoir remplacer leur rencontre, en tout cas leur rencontre fréquente. Et ils vont en effet se retrouver périodiquement, mais trop peu souvent. Et ils vont se retrouver pour un dernier moment de bonheur commun, peut-être, dans les Pyrénées, où Camille Claudel va réaliser le dernier portrait de sa carrière, qui est le buste de Paul Claudel à 37 ans. Et de son côté, au même moment, Paul Claudel va écrire le texte Camille Claudel statuaire, qui est le premier texte qu'il va écrire sur l'œuvre de sa sœur.
Qui est un peu comme un chant du cygne, en fait. Mais la légende noire de cette relation, c'est tout de même « Ah, c'est affreux, ok, il était diplomate, mais il a quand même complètement laissé tomber sa sœur. Stéphane le racontait, il lui rendait très peu de visites. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire qu'il l'a laissé tomber ou est-ce que c'est vraiment abusif ?
Je crois qu'on lui fait vraiment un mauvais procès. On lui reproche d'avoir fait interner sa sœur, mais justement, c'est lui qui organise l'internement parce que c'est lui qui s'inquiète pour elle et qu'elle a besoin d'être prise en charge. Malheureusement, ce sont les conditions de la prise en charge psychiatrique de l'époque, mais dont Paul n'est pas responsable. Et ensuite, vous l'avez dit, il vit loin, à une époque où les voyages s'effectuent par bateau, donc il reste plusieurs années à chaque fois sans rentrer en France. Et à chaque fois qu'il rentre en France, il rend visite à sa sœur. Alors, trop peu souvent aux yeux de sa sœur, et on peut la comprendre, il y a des lettres déchirantes où elle demande à Paul de venir la voir, mais on ne peut pas dire que Paul a laissé tomber sa sœur. Et on lui reproche aussi de ne pas avoir donné de sépulture à sa sœur, et je comprends ce reproche. En même temps, je pense qu'il faut aussi accepter qu'il y a différentes manières d'honorer la mémoire des morts, et peut-être que pour Paul, c'était moins important de s'occuper de son corps que de son âme, ou même encore plus de la postérité de son œuvre, et de faire en sorte qu'elle soit enfin reconnue comme grande artiste. Et il a vraiment œuvré dans ce sens avec l'exposition, la première exposition monographique consacrée à sa sœur en 1951 au musée Rodin. Et c'est Paul Claudel qui est à l'origine de ce projet. Et puis ensuite, il va faire don des 4 plus beaux chefs-d'œuvre de sa collection personnelle qui vont constituer le noyau de la collection Camille Claudel du musée Rodin, qui ensuite va être si importante pour la redécouverte de l'artiste dans les années 80.
Mais merci beaucoup, Cécile Bertrand, d'être revenue avec nous sur ce frère qui croyait en sa sœur comme personne et qui a honoré sa mémoire et son œuvre jusqu'à sa mort. Je rappelle que vous êtes conservatrice en chef du musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine, où l'on peut admirer la plus grande collection des œuvres de cette sculptrice de génie. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Europe 1. Historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, Historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre.
Oui, je viens de chercher un indice musical pour vous.
Ah oui, c'est lequel?
Voulez-vous l'entendre?
Ben oui, volontiers.
Le voici.
Le
plus
Le parrain.
Sur la mafia.
Bravo! Je pensais vous induire en erreur avec Dalida.
Non, c'est la musique du parrain.
Exactement. C'est Dalida qui chante sur la musique du parrain, par le plus bas.
On va parler de la mafia.
On va parler de la mafia, tout à fait. On ne peut rien vous cacher. J'espère que vous serez aussi brillant sur le quiz tout à l'heure.
Ben, on va essayer. Mais avant cet affrontement, je vais lui laisser la parole. Clémentine Portier-Kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Et aujourd'hui, Clémentine, lui aussi, croyait en sa sœur comme personne. Vous nous racontez Napoléon et sa sœur Pauline Bonaparte, la plus belle, mais la plus infidèle de la fratrie aussi.
Oh, bah, je dirais plutôt qu'il ne la croyait pas du tout capable d'être fidèle aux hommes. Ça, oui, c'est sûr. Hein. Et c'était, en effet, Stéphane la plus belle et la préférée des sœurs de Napoléon. Elle a la beauté d'une statue grecque, disait d'elle la comtesse Potocka. Elle est si belle et aussi si libre qu'à 13 ans, elle a déjà fait scandale en se baignant nue dans la rade de Toulon. Et oui, et si belle que les soupirants, bien sûr, se pressent au portillon. Alors, Bonaparte, c'est quand même un frère corse. Hein. Ça ne lui plaît pas qu'on reluque sa sœur comme ça. Donc, il essaye quand même de tenir les soupirants à distance. Et il les conduit d'abord le fougueux Junot. Andoche Junot, dit la tempête, qui est un très bon soldat, qui lui fait à l'époque office de secrétaire, mais il ne veut pas en entendre parler comme beau-frère. Lui, il préférerait marier Paulina, parce qu'à l'époque, elle s'appelle Paolina, à l'italienne. Hein. C'est lui qui va la baptiser Pauline par la suite. Alors, il préférerait un certain Fréron, un journaliste ancien conventionnel, qu'on surnomme le missionnaire de la terreur, parce qu'il a zigouillé pas mal de gens à Toulon et à Marseille pendant la Révolution. Ce qui est étonnant, c'est que cet homme-là, il a quand même 26 ans de plus que Pauline. Il a 39 ans, elle a 13 ans. Hein, ça fait beaucoup, mais enfin, bah, ça n'a pas l'air de gêner Bonaparte. Et puis, de toute façon, Pauline, elle est folle de son frère. Elle n'a qu'une idée, c'est de l'épouser. Mais Bonaparte découvre que l'homme en question, il a quand même déjà fait aussi une proposition de mariage à une autre femme. Donc, ce beau projet tombe à l'eau. Alors, il faut consoler Paolina. Et puis, il faut aussi la neutraliser, hein, la donzelle. Donc, il la fait venir auprès de lui au château de Montebello, près de Milan. Là, il reçoit encore quelques demandes. Alors, il refuse une nouvelle demande en mariage émanant du général Dufaux, et il accorde la main de sa sœur à l'un de ses meilleurs généraux, Leclerc, que Pauline épouse le 14 juin 1797 à Milan. C'est une affaire rondement menée. Si rondement d'ailleurs qu'à peine l'année suivante arrivée, Pauline donne naissance à un fils dont vous connaissez parfaitement le prénom, puisque vous nous avez questionné là-dessus dans un quiz. Est-ce que vous vous en souvenez, Jean-Luc, du prénom un peu curieux du fils de Paolina et le général Leclerc, d'Hermide? Vous vous souvenez?
Ah oui,
ça vous dit quelque chose?
Ça me revient,
ouais. D'Hermide, en fait, c'est un prénom qui est tiré d'un poème d'Ossian. C'était des poèmes qui, à l'époque, étaient très à la mode. Et cette idée d'appeler d'Hermide le neveu, c'est encore une idée fumeuse de Napoléon. Il a quand même une certaine influence sur sa sœur. Alors voilà la jeune maman de 18 ans qui part à Saint-Domingue avec son mari et elle l'y trompe copieusement. Néanmoins, elle le soigne avec dévouement quand il contracte la fièvre jaune qui finira par l'emporter, ce malheureux Leclerc, le 1er novembre 1802. Ah, ce jour-là, le désespoir de Pauline est très spectaculaire. Dans un geste théâtral digne d'une épouse lacédémonienne, elle coupe ses cheveux et les place dans le cercueil de son défunt mari. Si c'est pas beau. Mais bon, elle n'est pas vraiment taillée pour le rôle de veuve éplorée. Alors, à peine quelques temps plus tard, la voici au bras du beau général Humbert, l'un des chefs de l'expédition à Saint-Domingue. Et oui, Pauline, eh bien, on fait beaucoup dans le général et parfois dans le particulier, plus rarement, parce que c'est moins chic. Alors, en apprenant cette idylle avec Humbert, Napoléon est furieux. Il démet Humbert de tous ses titres et de toutes ses fonctions. Et alors, il n'a plus de boulot, Humbert. Et qu'est-ce qu'il devient? Il devient pirate dans les Caraïbes. Et oui. Et alors, où est-ce qu'on en est là? Parce que avec cette Messaline bourreau des cœurs, c'est compliqué. Donc il y a eu Junot, il y a eu Fréron, il y a eu les généraux Dufaux, Leclerc, Humbert, j'en passe et des meilleurs. Alors quand elle rentre en Europe, elle est veuve. Et c'est encore Napoléon, aidé de son frère Joseph, qui lui assigne un nouveau mari.
Mais cette fois, c'est un prince italien quand même.
Borghese.
Le prince Borghese, c'est chic. Alors là, devenue princesse Borghese, Pauline n'en fait qu'à sa tête. D'abord, elle pose nue pour le grand sculpteur Canova. Cette magnifique œuvre intitulée « La Vénus victorieuse » qu'on peut encore admirer au palais Borghese à Rome. Et quand les prudes lui demandent si elle n'a pas trop souffert de poser ainsi des vêtus, l'espiègle répond « Mais non, voyons, l'atelier était bien chauffé ». Installée rue du Faubourg Saint-Honoré dans l'hôtel Charros, qui est aujourd'hui l'ambassade britannique, un lieu que Stéphane connaît par cœur.
Où il y a d'ailleurs une copie de la
statue de Canova qui vous accueille à l'entrée. Vous avez un bus de Wellington, un bus de Bonaparte et puis Pauline Borghese, nue comme un ver et belle comme une Vénus. À Paris, elle mène grand train, elle fait tout ce qu'elle veut, elle fait défait les modes. Son frère la surnomme d'ailleurs Notre-Dame des colifichets. Elle est la coqueluche de tout Paris. Et voilà, maintenant qu'elle tombe amoureuse d'Auguste de Forbin, un très bel homme, un soldat émérite et peintre formé par le grand David, qu'elle retrouve régulièrement dans des châteaux en dehors de Paris. Napoléon veut essayer de maquiller cette relation, il le nomme chambellan de sa sœur. Bon, il pense que comme ça, ni vu ni connu, je t'embrouille, mais de toute façon, c'est très mal connaître Pauline. Bien que mariée, enfin, il faut dire que son prince Borghese, il n'est jamais là, hein, d'autre part. Et bien, elle va finir par installer son Forbin chez elle et ils vont vivre leur passion pendant plusieurs années. En 1807, ça y est, elle en a marre, elle le congédie. Alors là, Napoléon envoie Forbin au Portugal et il deviendra directeur général du musée du Louvre. C'est lui qui va succéder au grand vivant de nom. Alors si durant sa courte vie, parce qu'elle est morte à 44 ans, Pauline Bonaparte, selon la phrase du prince de Metternich, le plaisir fut la première occupation de Pauline. À l'heure de la chute, elle sera pourtant l'unique membre de la famille impériale à voler au secours de son frère exilé à l'île d'Elbe, lui offrant spontanément ses diamants. Ainsi, Napoléon, son frère préféré, fut-il le seul homme avec qui elle parvint à maintenir jusqu'au bout un lien profond fait de sincérité, de bienveillance et de fidélité.
Et eh bien, oui. Bravo, hein, Clémentine.
Comme quoi, on peut toujours sortir.
Tirez-en de la graine. Merci beaucoup. Et maintenant, Clémentine, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz historique, astucieusement intitulé « Born to be alive ».
Oui, astucieusement, en effet, car c'est un clin d'œil à « Born to be alive », petit jeu de mots. On a remplacé « Born » par votre patronyme, « Born ». Ça donne « Born to be alive ».
Je me suis longtemps demandé si vous me preniez pour une tanche, mon cher Jean-Luc, mais maintenant, je ne me pose plus la question. J'en ai la certitude. Allez, jouons, je vous en prie.
C'est parti, puisque vous le demandez, une question pour vous, Stéphane. Le prix Pulitzer est un prix prestigieux, vous le savez, du nom de Joseph Pulitzer. Il est décerné depuis 1917. En 1981, il y a eu un petit cafouillage. Janet Cook a remporté le fameux prix, mais à l'époque, il fallait forcément avoir une carte de presse pour le recevoir. Il lui a donc été finalement retiré. Vrai ou faux ?
Je ne crois pas qu'il faut une carte de presse pour l'avoir. Faut être journaliste, enfin, faut publier un article de presse.
Est-ce que c'est pas plutôt une histoire plutôt une histoire de plagiat, ça, Stéphane, non ?
Je pense pas que c'est une question de numéro de carte de presse.
C'est pas un numéro de carte de presse, c'est pour ça que c'est pour une autre raison.
Une autre raison.
Ok, on vérifie.
Vous avez gagné !
Bien vu ! L'histoire est beaucoup plus terrible que ça, puisque Janet Cook a remporté le prix Pulitzer en 1983 grâce à un reportage sur un jeune Américain de 8 ans accro à l'héroïne. Et elle a dû rendre son prix, car on a découvert ensuite que tout le reportage avait été bidonné.
C'est ça, oui. Moi, j'avais retenu plagiat, mais il y avait eu triche. Quoi.
C'était un gros bidonnage.
Ouais.
Une question pour vous maintenant, Clémentine. Une question chien à présent.
Ah. Non, ça c'est pas juste.
Oh, écoutez, Argos.
Argos et les Argonautes, mais Argos n'est pas un chien.
Argos fut l'ami à quatre pattes d'Ulysse, mari de Pénélope et roi d'Ithaque. On connaît la légende, même après 20 ans d'absence.
Son chien le reconnaît.
Voilà, oui. Le chien reconnaît son maître quand il revient de son long voyage. Tristesse, Argos va mourir assez rapidement. Mais voici ma question. Est-ce que oui ou non, Ulysse a eu le temps de caresser son chien avant qu'il ne trépasse ?
Je pense que oui, parce qu'il me semble que le chien est la seule personne à le reconnaître, parce qu'il me semble que la déesse protectrice d'Ulysse, est-ce que c'est Vénus, est-ce que c'est Athéna, je ne sais plus quelle est ça, lui a donné les traits d'un autre homme afin qu'il ne soit pas reconnu. Il est reconnu d'un serviteur, de son vieux serviteur, me semble-t-il.
et de son chien, ça serait logique. Et en plus, Homer n'aurait pas voulu qu'Ulysse, séparé de sa famille depuis 20 ans, n'ait pas pu non plus voir son chien. Qu'en pensez-vous, Stéphane ? Moi, je répondrai oui.
La question précise, c'est est-ce qu'il a eu le temps de le caresser ?
Je crois qu'il a... Il y a eu un problème, mais je sais qu'il...
Oh, l'escroc !
Parce que j'ai relu le texte il n'y a pas longtemps.
Mais c'est extrêmement triste, enfin,
ça serait extrêmement triste, si
il
c'est le cas.
Il n'aurait pas eu le temps de caresser son chien. Je trouve ça cruel, si vous voulez, de la part d'Homère. Il l'a
alors
déjà...
Alors, vous choisissez quoi ?
Moi, je dis il a caressé son chien. Parce que je suis pour l'amour, et l'amour est plus fort que la haine et l'indifférence.
Eh bien, on va voir si l'amour triomphe.
Vous avez perdu.
Eh non, il a perdu l'amour.
Ouais.
Non, alors.
Homer, c'est pas cool. Hein.
Il est mort de joie en me reconnaissant.
Exactement, c'est ça.
Pauvre
c'est
Argos,
oh, c'est
je
beau.
N'ai plus, j'en ai comme un remords, te faire une caresse avant que tu ne sois mort. Le texte est écrit par François Ponsard en 1852 dans Ulysse, tragédie en trois actes. Quand Eugène Barrès traduit l'Odyssée en 1842, il raconte la même histoire. Oui, malheureusement, Argos a vu son maître. Il en est mort de joie.
Oui, ben c'est beau quand même. Il est mort de joie, c'est beau. C'est beau.
Oui, c'est un peu triste quand même. Une question pour Stéphane. C'est en 1860 qu'apparaît pour la première fois dans des documents italiens officiels le mot « mafia ».
Oh, c'est fastoche, c'est ce que vous avez demandé.
Ah ben, allez-y alors.
Bon, la définition on prétend que la définition du mot mafia, c'était lié aux vêpres siciliennes et que si on décline chaque lettre, ça veut dire les Français, l'Italia d'abord est mort aux Français.
Voilà, exactement. Eh ben, c'est pas du tout la question. Mais c'était très intéressant, merci beaucoup
ah,
Clémentine.
N'est-ce pas, hein.
Au sein de l'organisation criminelle...
Elle fait les questions et les réponses, c'est bien ce que je pense.
C'est ça. Elle est très forte quand elle pose elle-même les questions. Donc, au sein de l'organisation criminelle, pour exécuter un traître, on utilisait la lupara.
Moi, j'aimais mieux ma question à moi.
Un fusil qui servait normalement à chasser le loup. Loup, lupara, c'est logique. C'est logique, mais est-ce que c'est vrai?
Il n'y avait pas une arme particulière pour...
Si.
Il y avait une arme particulière pour...
Pour exécuter un traître.
Avec une arme réservée à la chasse aux loups. Est-ce qu'il y avait des loups en Sicile, Stéphane ?
Oui, bien sûr. Je vais dire oui, allez.
Vous dites oui ?
Oui.
Moi, j'aurais dit non.
On vérifie.
J'aimerais bien que vous plantiez.
Vous avez encore gagné.
Oh, zut alors.
D'ailleurs, dans le parrain, on appelle loupara les fusils et canons sciés utilisés par les hommes de main de Corleone. Et au début du XXe siècle, on utilise plus volontiers le fusil mitrailleur, mais ça vous le saviez.
Oui.
La sulfateuse.
Donc bon. j'ai déjà deux bonnes réponses.
Vous avez deux bonnes réponses, okay. Mais
oui,
là...
Oui, bon, on le saura. Bon, allez, salut.
Non, parce que là, c'est une question à deux points.
Ah bon ?
Oui.
Et pourquoi elle a toujours des questions à deux points et moi jamais Non mais... Attends,
parce que j'ai apporté un petit plus culturel
c'est ça,
sur la mafia.
Vous la privilégiez et après vous osez dire que je perds toujours.
Elle va perdre, hein. Elle va perdre quand même. De toute façon, d'accord. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle va répondre à cette question à deux points?
J'aime bien les questions chiffrées de la fin. Là.
Eh ben, c'est une question à deux points pour vous. François-Félix Nogaret, écrivain, fils d'un premier commis du ministère de la Maison du Roi, fut également bibliothécaire de la comtesse d'Artois. Il a vécu 90 ans. Et chose étonnante, il a écrit une version érotique de Frankenstein ou le Prométhée moderne, 10 ans après le roman culte de Mary Shelley. Vrai ou faux ?
Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'érotique dans Frankenstein ? Que la créature créée par Mary Shelley se mette à violer ou tombe amoureux ?
Oui, parce que dans l'érotisme, on a le truc peut-être un peu plus.
Il est quand même pas Jojo, le gars, il est plutôt violent.
Et alors, on a tous le droit à l'amour.
Bah oui, comme disait Argos, le chien d'Ulysse, mort de joie en le voyant. Écoutez, je dis non, il n'y a pas de version érotique, ça doit être autre chose.
Vous pensez que c'est autre chose ?
Faites-moi un petit signe, là, si vous voulez qu'on fasse la question. Ah bah non, oui, parce qu'en plus, ça vaut 2 points.
Oui, ça vaut 2 points, là, je ne peux pas vous aider.
Ah bah non,
je pense.
Ah bah oui.
L'autre, il va râler, là.
Ah bah oui,
Stéphane,
je râle déjà.
Bon, écoutez, alors, je dis une version érotique de 10 ans plus tard. 10 ans
ouais,
plus tard.
Il a écrit ça 10 ans après Mary Shelley.
Écoutez, vivant de nom, écrivez bien des livres érotiques. Sade écrivait des œuvres érotiques. Est-ce que après
c'est
tout, pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Allez, oui.
Allez, oui.
Il a fait sa version érotique.
C'est bien, j'aime quand vous vous affirmez comme ça. On vérifie.
Vous avez... Et je suis désolée pour vous. Perdu.
Vous charriez, hein. Vous m'avez quand même influencé. J'avais commencé par répondre oui.
Mais pas du tout.
Puis j'ai vu là vous.
Mais là,
bougiez
ça lui,
sur
elle
votre
creuse.
Chaise.
Ça lui fait -2 points du coup.
Ah bah de toute façon là, on est même à -4. Alors il faut que je vous explique quand même, parce que ce qui est troublant, c'est qu'il publie 30 ans avant le roman Frankenstein, un conte où il imagine un inventeur du nom de Frankenstein qui crée un homme artificiel.
Ah, c'est étonnant.
Vous en tirez les conclusions que vous voulez.
Ah, c'est peut-être de la cryptomnésie, en fait. Peut-être que Mary Shelley avait lu ce livre, elle ne s'en souvenait pas et elle a écrit son Frankenstein.
Peut-être, ou peut-être qu'elle s'en est simplement inspirée.
Bon, bah écoutez...
En tout cas, c'est...
Là, vous avez bien perdu.
Oui, là, on ne peut rien faire pour vous.
Bien
merdé.
Bravo, Stéphane.
Merci. Au revoir, Clémentine.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Castello-Lopez, Gavin Clemente Ruiz et nos personnages du jour qui croient en leur sœur comme personne. Personne. Après Paul Claudel et sa sœur Camille, je vous raconte la danseuse Isadora Duncan qui a cru en sa sœur Elisabeth, restée dans l'ombre de la danse elle aussi. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter une artiste qu'on adore, et moi plus encore, une chanteuse qui croit en sa sœur, chanteuse elle aussi comme personne.
Oui, Clara Luciani.
Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne.
Elle croit autant en sa sœur qu'en vous, c'est oui. Dire l'importance qu'elle lui accorde. Oui. Je vous raconte tout ça tout à l'heure.
Mais je crois en elle aussi.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern.
Ensemble, ces deux sœurs ont fait vivre la danse, mais chacune à leur manière. Pieds nus, en toge, s'affranchissant de toutes les règles académiques, la plus célèbre a jeté les bases de la danse moderne. De son côté, sa sœur a ouvert une école pour les transmettre. Je vous raconte maintenant Isadora Duncan qui a cru en sa sœur Elisabeth comme personne, personne. Certains patronymes sont associés à des personnalités de l'histoire si célèbres qu'on en oublie que d'autres l'ont porté aussi. Dans la famille Duncan, il y en a deux qui se sont fait un nom. Isadora, d'abord et surtout, puis Raymond. Mais avez-vous déjà entendu parler d'Elisabeth ? La réponse est probablement non. Mais il y a une raison à cela. L'aîné du clan Duncan fut toujours dans l'ombre de sa sœur qui fut toute sa vie littéralement sous le feu des projecteurs. Pendant qu'Isadora se produit sur scène, Elisabeth enseigne. C'est à San Francisco que le couple Duncan, un banquier et une pianiste, met au monde ses quatre enfants. Deux garçons, Augustin et Raymond donc, et deux filles, Elisabeth, née en 1871, et Isadora, de 6 ans, sa cadette. À la suite de la faillite de la Bank of California, le père fait banqueroute. Aux problèmes financiers s'ajoutent des problèmes dans le couple. Ne supportant pas les infidélités de son mari, Marie-Dora Duncan claque la porte avec ses quatre enfants sous le bras. Pour subvenir à ses besoins, elle donne des cours de piano, mais cela ne suffit pas. La famille déménage plus d'une quinzaine de fois. Ils mènent une vie d'errance, une vie de bohème aussi. La mère élève Raymond, Augustin, Elisabeth et Isadora dans le mépris des biens matériels. À la maison, on lit Shakespeare, John Keats, Percy Shelley, mais aussi l'Iliade et l'Odyssée sur fond de musique classique. Les airs de Chopin, Beethoven et Mozart bercent l'enfance d'Elisabeth et Isadora. Le bruit des vagues aussi. Isadora contemple leur ondulation. Aussi, quand sa mère les invite à trouver leur voix, leur passion, les deux filles n'hésitent pas. Danser. Elles n'ont même pas encore 10 ans quand elles montent une école de danse pour enseigner les mouvements du corps aux filles du quartier. Leur réputation grandit très vite à San Francisco. C'est une source de bonheur, mais aussi de revenus. Le maître mot de leur manière de danser, c'est la liberté. Elles s'affranchissent des règles académiques. Il n'y a ni pointe, ni tutu, ni corset. Isadora danse pieds nus, sous une toge en mousseline transparente. La fluidité du vêtement épouse les mouvements de ses membres. À la voir ainsi se mouvoir, on dirait que les statues de l'Antiquité grecque prennent vie. C'est justement ce qu'elle essaye d'incarner. Ces statues, Isadora les admire longuement à la National Gallery de Londres, puis au Louvre à Paris. À 23 ans, dans les rues de la capitale, elle fait la rencontre de Loy Fuller, célèbre pour ses numéros de danse avant-gardistes. Elle intègre sa compagnie, puis se fait remarquer lors de performances qu'elle donne à travers le monde. Paris, Londres, Berlin, Munich. Je suis venue en Europe pour amener une renaissance de la religion au moyen de la danse, affirme-t-elle, pour révéler la beauté et la sainteté du corps humain par l'expression de ses mouvements, et non pour distraire après dîner des bourgeois gavés. En parlant de bourgeois, elle fréquente le sculpteur de ceux de Calais, Auguste Rodin, dont on parlait tout à l'heure. En 1903, Isadora se produit même lors du banquet organisé en l'honneur de sa nomination au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Moins célèbre, sa sœur Elisabeth n'en est pas moins active. L'année suivante, elles créent ensemble l'une des toutes premières écoles de danse moderne à Berlin, dans le quartier de Grünwald. Une vingtaine d'élèves ont la chance d'assister au cours. Isadora en repère 6 qu'elle trouve particulièrement douées. Elle les prend avec elle pour des représentations dans le monde entier. On leur donnera plus tard le nom d'Isadorable. Au cours d'une conférence, Isadora Duncan prône en faveur de l'autonomie et de la libération de la femme. C'en est trop pour le comité, qui retire son soutien financier. L'école ne pouvant plus exister, Elisabeth crée une association pour garder les élèves jusqu'à ce que le grand-duc de Hesse finance la construction d'une école qui voit le jour en 1911 à Darmstadt. Sa durée de vie est brève. Les bombardements de la Grande Guerre la réduisent en fumée. Ne baissant pas les bras, Elisabeth continue l'enseignement en itinérance pendant que sa sœur se produit à l'étranger. Loin des yeux, elle reste toujours au plus près de la danse. Femme libre et indépendante, Isadora refuse de se marier. Elle donne naissance à 2 enfants, hors mariage, et de pères différents. Mais elle a beau choisir son rythme, elle est prise dans le tourbillon de la vie et de ses tragédies. En 1913, ses enfants meurent noyés dans la Seine à la suite d'un accident de voiture. Le choc est dévastateur, le chagrin incommensurable. Cette eau qu'elle aime tant voir onduler engloutit pour toujours la prunelle de ses yeux. Je suis né au bord de la mer et j'ai remarqué que tous les grands événements de ma vie se sont produits au bord de la mer, écrit-elle dans son autobiographie. Elle ne sait pas encore qu'elle vivra ses derniers instants à quelques pas de la Méditerranée. En septembre 1927, Isadora Duncan, qui a alors 50 ans, vit à Nice. Un soir, elle profite de la douceur de l'été indien au volant de son cabriolet sur la promenade des Anglais. L'odeur salée de la mer chatouille ses narines, le vent s'engouffre dans ses cheveux comme un air de liberté. Soudain, son châle se coince dans les roues du véhicule. D'abord étranglée, elle se retrouve violemment projetée hors de la voiture. Son corps sans vie gît sur le sol. Isadora Duncan ne dansera plus. La presse internationale relate l'événement. Le monde entier est triste. Elisabeth, la première, évidemment. Pour continuer de la faire vivre, elle poursuit sa mission pédagogique et transmet à des générations entières de jeunes filles la manière de danser de sa sœur. En politique, en revanche, les Duncan n'écoutaient pas la même musique. Si elles dansent au même rythme, leurs convictions idéologiques divergent. Isadora a fondé une école à Moscou et se dit attachée au communisme, affirmant vouloir danser pour les masses, pour les travailleurs qui ont besoin de mon art et n'ont jamais assez d'argent pour venir me voir. De son côté, Elisabeth se retrouve prise dans l'étau de l'idéologie nationale-socialiste. Son école itinérante se fixe à Munich en 1936. L'année suivante, elle écrit une lettre à Goebbels. Elle se plaint de figurer dans une encyclopédie de façon diffamatoire, sous la rubrique « Musique et judéité ». Nom de Dieu, elle est arienne. Son collaborateur et compagnon Max Mertz l'engage aussi dans cette voie. Résultat, les cours de danse prennent la forme de propagande autour de l'hygiène raciale. Il est possible qu'Elisabeth Duncan n'ait pas été sensible au jazz dénigrant comme son compagnon, la caricature frivole et les symboles sexuels qu'on trouve dans des danses comme le foxtrot ou le black bottom. Laissons plutôt le mot de la fin à la libre Isadora. La danseuse de l'avenir sera quelqu'un dont le corps et l'âme auront grandi si harmonieusement de concert que le langage naturel de cette âme sera devenu le mouvement du corps. La danseuse n'appartiendra pas à une nation, mais à l'humanité tout entière.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Isadora Duncan, nous avons le plaisir d'accueillir une danseuse qui la connaît bien. Bonjour Laetitia Doha.
Bonjour.
Laetitia Doha, vous êtes chercheuse en pratique corporelle et en danse. Déjà, d'où vient cette passion pour la danse pour les sœurs Duncan ?
Alors, je suivais à l'époque, c'était en 2004, un danseur et un chorégraphe contemporain que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Boris Charmatz,
oui,
et qui apprenait des danses du répertoire d'Isadora auprès d'une des héritières de la lignée Duncan. Et je voyais ce merveilleux danseur qui était quand même passé par l'école de l'Opéra de Paris. Et là, il était pâteau, maladroit, malhabile, alors que les pas de danse qui lui étaient transmis apparaissaient vraiment simples. Et je voyais que lui non plus, il n'était pas du tout satisfait de ce qu'il faisait et qu'en même temps, il n'avait aucun moyen technique à sa disposition immédiate pour changer ça. Là, je me suis dit qu'il fallait creuser. Et vous voyez, j'y suis encore 20 ans plus tard. Mmh. Alors que si j'avais pu rencontrer Elisabeth, elle m'aurait très vite fait tout comprendre parce que c'est elle qui s'est analysée.
Elle se passionne pour la danse et l'enseigne très tôt à des jeunes de leur quartier de San Francisco. Dès le départ, quelles sont ses influences? On a évoqué les statues grecques pour les tenues qu'elle portait notamment, mais on imagine que ça va bien au-delà de tout ça, c'est beaucoup plus riche.
Oui, en fait, pour avoir travaillé 4 ans au Louvre, j'ai pu vérifier combien le corps d'un Kanien suivait les mêmes lignes spiralées que celles de la stature grecque, qui va valoriser la figure du contrapposto. Et le contrapposto, c'est une alliance parfaite des trois plans de l'espace. Mais effectivement, ce n'est pas du tout le seul socle. Pour tout le vocabulaire des pas, des pieds, il faut se référer aux danses de société, les valses, les mazurkas, les scottish, les polkas. Et c'est d'ailleurs avec ces danses de salon du 19e siècle qu'elles ont commencé à gagner de l'argent. Mmh. Et le tout est mixé sur la cadence et le lyrisme de la musique romantique de Beethoven, de Brahms, de Chopin. Pour moi, c'est vraiment ça le cocktail détonnant qui fait la spécificité de la danse d'un camp.
Jean-Luc,
Isadora et sa sœur s'affranchissent des règles académiques. Est-ce que ce sont les premières à opérer une telle rupture dans le milieu de la danse ?
Alors, tout comme Loy Fuller, Elisabeth et Isadora Duncan, elles sont américaines. Il faut se rappeler qu'il n'y a pas de culture de ballet comme en France ou en Italie. L'Amérique est une jeune nation et les deux sœurs, elles naissent à San Francisco à l'époque de la ruée vers l'or. On est vraiment littéralement en plein Far West. Donc, il n'y a pas beaucoup de règles académiques. Et la danse duncanienne, elle naît aussi de l'observation de la nature, de ces grands espaces californiens, du ressac de la mer, du vol des oiseaux. Et c'est pas pour rien qu'elles inaugurent un courant qu'on appellera la danse libre.
Oui, c'est ça. Elles avaient une vision très avant-gardiste. Elles voulaient libérer le corps de la femme. Et c'était ça qui était le plus important pour elles, n'est-ce pas ?
Oui, et on pourrait dire que c'est parce qu'elles veulent tout simplement respecter les lois de la nature. Et elles naissent dans un environnement absolument idéal pour cela. L'atmosphère sauvage de la côte ouest américaine, j'en ai parlé, mais aussi l'influence du delsartisme qui va fleurir à San Francisco. Et les bobos de l'époque, ils se promènent déjà en toge et en sandales, c'est normal. Hein. Il y a aussi l'éducation très libertaire de sa mère et qui est aussi artistique. Donc c'est le terreau parfait. Or, quand elles arrivent en Europe en 1900, dans ces villes qui sont denses, ces ruelles qui sont étriquées, ces corps corsetés et parfois aussi ces esprits très étroits, c'est là qu'elles doivent se défendre de ce qu'elles sont en fait. Et on les perçoit alors dans leur discours comme ayant une volonté de libération, alors qu'en fait, elles n'ont jamais été emprisonnées.
Jean-Luc ?
À la lecture du récit, on comprend qu'en réalité, les deux sœurs dessinent les prémices de la danse contemporaine ou moderne.
Oui, en fait, Isadora est souvent présentée comme la mère ou même la grand-mère de la danse moderne américaine.
Ah oui. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'Isadora devient danseuse. Elle est tout le temps sous les projecteurs, tandis que sa sœur aînée reste dans l'ombre et devient enseignante de danse. Au fond, qu'est-ce qu'on sait ? Elles avaient deux caractères très différents, mais elles se complétaient au niveau de la danse.
Alors, la famille Duncan, c'est une famille monoparentale avec 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, et dans un univers de Far West. C'est pas pour rien qu'on la surnomme le clan Duncan. Elisabeth, elle va endosser avec perfection le rôle de la sœur aînée de la fratrie. Elle est sage, elle est responsable, et c'est un caractère qui sera plus tard extrêmement précieux pour diriger l'école. Analyser et poser les bases techniques du style de danse qu'elles vont faire naître. Isadora, elle va remplir à merveille son rôle de Benjamine, elle va garder son âme d'enfant, son innocence, son goût pour le jeu, et ça va faire l'artiste libre et enflammée qu'on connaît.
Mais est-ce que l'une avait un ascendant sur l'autre ?
Je dirais qu'il y avait une admiration commune. Et le mot admiration, il me fait plutôt penser aux élèves de l'école. Lorsqu'elles sont enfants, c'est avec Elisabeth qu'elles sont au quotidien. Elles sont en pension toute l'année et elles n'apprécient pas toujours les comportements de la directrice de l'école. Il faut dire parfois qu'elle les fait danser pieds nus à 6 heures du matin sans avoir pris le petit déjeuner dans la forêt bavaroise, quelle que soit la saison. Donc on l'appelle parfois le dragon, Elisabeth. Et évidemment, Isadora, c'est la fée, elle passe toujours en coup de vent, elle raconte ses tournées en Europe, c'est l'artiste, elle danse rien que pour les petites filles, et elle danse d'une façon tellement divine qu'elles ne peuvent que l'admirer. Mmh. Voilà. Et c'est Isadora qui a le beau rôle.
Elisabeth a repris l'école qu'elles ont fondée toutes les deux au début du XXe siècle et a poursuivi l'enseignement de la danse après la mort d'Isadora. Malgré tout, est-ce qu'elle n'a pas un peu dénaturé l'ambition de sa sœur avec son idéologie qui était très largement opposée à celle de Isadora.
Alors, au-delà des remous et des vagues politiques dans lesquelles les deux sœurs se retrouvent embarquées dans cette première moitié du XXe siècle qui est quand même bien agitée, je dirais qu'Isadora et Elisabeth, elles partagent une même croyance, c'est celle que la danse élève l'homme. Et si vous connaissez la danseuse allemande Pina Bausch, elle a une phrase que j'adore qui dit « Dansons, sinon nous sommes perdus ». Et en fait, les deux sœurs, elles ont un véritable combat, c'est celui de faire perdurer leur école coûte que coûte. Donc, elles vont aller dans différents pays et s'affilier avec différents mouvements politiques. Mmh. Et puis après, si on devait distinguer l'une de l'autre, je dirais qu'Isadora, en fait, son combat, ça a été de défendre que la danse est un art et non un divertissement. Alors qu'Elisabeth, elle a eu besoin de démontrer que ce style de danse, qui a été qualifié de danse libre, n'est pas simple, qu'il requiert d'une technique et d'un travail d'une grande finesse corporelle et musicale, alors que ça semble facile.
Et pour finir, aujourd'hui, vous citez Pina Bausch, mais aujourd'hui, beaucoup de danseurs se revendiquent de l'influence d'Isadora et d'Elisabeth. Concrètement, qui assure leur relève ?
Alors, beaucoup la connaissent, mais très peu la dansent. Les seules danseuses qui connaissent véritablement la technique et le répertoire d'un camp aujourd'hui sont la 4e, 5e et même 6e génération d'une famille qui est à la fois une famille de sang, de cœur et de corps, qui commence avec Isadora, Elisabeth et aussi Raymond Duncan, qui va se prolonger après avec les filles adoptives d'Isadora, 4 des 6 Isadorables. On a Irma Duncan à Moscou, Anna et Teresa Duncan à New York et Lisa Duncan à Paris. Et après, on va essaimer dans le monde entier jusqu'au Japon, dans des foyers qui sont relativement confidentiels, mais qui sont en fait très fervents.
Merci beaucoup Laetitia Doha d'être venue avec nous sur cette danseuse qui a changé le monde étriqué de la danse classique par sa liberté de mouvement. Merci beaucoup.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez et Gavin Clemente-Ruiz, ont réuni des personnages qui croient en leur sœur comme personne. Après Paul Claudel et Isadora Duncan, vous nous racontez, Jean-Luc, ma chanteuse préférée, c'est Clara Luciani, tout le monde le sait. Et je précise aussi que c'est vous qui m'avez écrit ce lancement, parce que vous vouliez que je dise, je précise, après Mireille Mathieu. Mais non, j'aime Clara Luciani.
Et pas Mireille Mathieu.
Si, je l'aime différemment, voyez-vous. Pas comme chanteuse, je l'aime.
Bah, vous l'aimez comment ? Comme fantasme ? Comme fantasme sexuel ? Vous m'étonnerez toujours. Ah, Stéphane, avoir une grande sœur, comme c'est chouette. Une grande sœur, cet être rare et précieux qui te surnomme publiquement le petit crasseux. Celle qui raconte lors des fêtes de famille que tu mouilles encore tes draps la nuit à l'âge de 8 ans. Celle qui t'explique que si papa et maman t'ont fait, c'est uniquement pour l'occuper, car il trouvait trop contraignant de lui prendre un cochon d'Inde. Celle qui te donne 2 euros pour aller lui acheter des bonbons à la boulangerie et qui, pour te remercier, ne t'en donne même pas un quand tu les lui ramènes.
Je sens que vous avez...
Oui, ou quoi ? J'ai des choses à régler.
Oui, oui. Je vois ça.
J'ai pas mal morflé pendant mon enfance. Une grande sœur, donc. Le cauchemar des uns, et parfois, la bonne étoile des autres. La chanteuse Clara Luciani, que je ne présente plus, est mon personnage du jour. Sa grande sœur est à la fois sa moitié, son âme sœur, sa force, ses entrailles, sa rate et tout ce qui peut être considéré comme vital chez l'être humain. « C'est ma personne préférée sur Terre », dit Clara en parlant de sa sœur Ella. Dans sa chanson « Ma sœur » écrite en son honneur, Clara Luciani le dit, le chante, le crache comme une bouffée d'amour. Elle l'aime. « Il n'y a rien de plus fort que mon amour pour elle », ajoute-t-elle. Quand en avant-première, Clara lui envoie le morceau, Ella pleure pendant 48 heures. D'émotion, je précise. Oui, non, parce que dit comme ça, je vous l'accorde, le verdict artistique peut paraître cruel. Mais chez les Luciani, cela ne fait aucun doute, on se parle d'amour. Ella, Léa, de son vrai prénom, est aussi chanteuse. Pour elle, je la cite, Clara est un exemple à suivre. Oui, j'ai cherché partout, croyez-moi. Pas un commentaire négatif, aigri, désobligeant ou ambigu de la part de l'une ou de l'autre. J'ai pourtant fait un travail quasi spéléologique pour trouver une remarque borderline qui aurait pu remettre en doute leur lien quasi mystique. Rien. SM pour de vrai. Qu'est-ce que c'est chiant les gens heureux. Comment je travaille moi après, hein ?
C'est difficile.
Franchement. Clara Luciani voit le jour à Martigues. Martigues, qu'on baptise Stéphane. Là. La Venise provençale, Stéphane, peu cher. Ouais, je suis nul en accent. Je sais jamais où placer le peu cher. Elle vit avec son père, employé de banque, sa mère aide-soignante et...
Mais sa sœur.
Avec sa sœur, et là, voilà. C'est bien, vous êtes avec nous Stéphane, ça fait plaisir. Parce que commencez pas à m'emboucaner, hein. Bah, pas suivre un peu cher. Toujours pas ? Vous aimez non. Pas l'accent pourri que je fais ?
Sympathique.
Non, c'est pitoyable. Bon, et là, et Clara développent une passion commune pour...
La musique.
Ah, on y arrive. Leur père, collectionneur d'instruments à cordes, leur transmet sa mélomanie et fait chanter ses filles en les accompagnant à la guitare. C'est Non, c'est pas le papa de Clara Luciani, c'est pas un document.
Je préfère.
Si la mélodie du bonheur traverse le foyer Luciani, à l'école, pour Clara, c'est une autre limonade. Jugée trop grande par ses camarades, elle subit les moqueries cruelles des autres élèves, qui la qualifient de girafe ou d'asperge. Solitaire, Clara se réfugie dans ses nombreuses passions. Il y a la musique, bien sûr, mais aussi des puzzles, Baudelaire, Catherine Deneuve et Harry Potter. Vous le constatez, ses hobbies indoor sont aussi variés qu'une paella sous piqué. Sa passion pour Harry Potter prend alors des proportions quasi pathologiques. À tel point qu'elle décide d'écrire une suite au livre de J.K. Rowling et exige que tout son entourage l'appelle Clara Mione, en référence au personnage d'Hermione. C'est sans appel. Clara perd pied. Et elle ne s'arrête pas là. Ado, elle tombe dans la sévère délinquance.
Navarro, j'écoute.
Un jour, alors qu'elle est encore ravagée par une préadolescence rude, elle décide de s'offrir des kiwis jaunes. Or, elle réalise que le prix de ce fruit sur la balance alimentaire de chez Auchan est équivalent à la prime d'audience de Stéphane Bern sur Europe 1. Spoiler alert, ça coûte cher. Bien plus cher dans le commerce que les kiwis verts. Rebelle et désorientée, elle décide d'intervertir les étiquettes des kiwis jaunes et des kiwis verts pour payer moins cher en caisse. Passionnant, je sais. Oui, je sais. J'essaie de monter cette anecdote. Voyant sa sœur sur la pente descendante du crime et de la délinquance, sa grande sœur Léa intervient, l'encourage et la pousse à faire de la musique professionnellement. Ça, c'est une bonne frangine. À 19 ans, afin de financer sa venue à Paris, elle devient vendeuse de vêtements, pizzaiolo et prof d'anglais sans savoir dire un mot dans la langue de Shakespeare. Sa grande sœur ne la lâche pas d'une semelle et continue de l'encourager. Elle lui répète, elle l'affirme. Un jour, ma sœur, tu vivras de ta musique. Après avoir enchaîné les premières parties de la scène française, en 2018, Clara explose, dans tous les sens du terme.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes ?
Elle publie son premier album, Sainte Victoire, et scande au monde entier que sous son sein, Stéphane...
La grenade.
Wow, j'ai eu peur. J'ai pris un risque sur celle-ci. Hein. Tout à fait, Stéphane, la grenade. Sous son sein, la grenade, et sur sa cheminée, quelques victoires de la musique. Pendant ce temps, sa sœur Ella se fait connaître du public en participant à l'émission Popstar en 2013, dans un groupe, avant de poursuivre une carrière en solo. Les deux sœurs restent plus fusionnelles que jamais. Lors du confinement en 2020, Clara reste bloquée un temps en Écosse. Ce qui lui manque le plus, sa sœur, qu'elle porte dans son cœur tout au long de son enfermement. Mais pas seulement. Sa sœur pense sa solitude par la pensée, et vous aussi, Stéphane. Oh, ne faites pas le surpris. Ni ses yeux faussement embarrassés. Clara ne s'en est jamais cachée. Elle a un frère de cœur, une autre moitié passionnelle, un amour incrusté en elle. Vous, Stéphane. Depuis son adolescence, elle vous voue un véritable culte. Vous étiez, je cite, « son amoureux en secret ». Elle rajoute « c'est plus que ça, je l'adore. J'ai eu une adolescence assez solitaire, et puis Stéphane m'aidait à m'évader. » Ni une ni deux, Stéphane rétorque à son tour publiquement « je suis fan, j'adore Clara Luciani, elle le sait, je l'aime d'amour, j'aime tout ce qu'elle chante. » Oui, bon bah ça va, prenez une chambre. Et voilà que elle et vous portez respectivement au public des t-shirts à l'effigie de l'autre. Trop d'amour.
J'ai toujours été très amoureuse de Stéphane Bern. Donc je pense que si je devais avoir une photo de rêve, ce serait le mariage de Stéphane et moi.
Oui, bon, écoutez, c'est un projet. Néomag.
C'est envisageable.
Néomag. Je ne sais pas si vous avez vu ce titre. Néomag qui avait titré, sans qu'on sache trop pourquoi, Clara Luciani, fan de Stéphane Bern, addict au puzzle et phobique des pieds. C'est officiel, la fratrie ne comprend pas que deux sœurs, mais bien un troisième fils. Stéphane Luciani, frère de cœur.
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux.
Merci Jean-Luc, un truc que j'adore.
Oh bah ça se sent. Oui, à chaque fois, vous changez de voix. Et même de rythme de voix, c'est terrible.
Et vous l'aimiez avant de savoir qu'elle vous aime ?
J'aimais ce qu'elle faisait, oui. Je ne la connaissais pas, puis j'ai eu la chance de la rencontrer. Et c'est là qu'elle m'a dit ce qu'elle avait toujours gardé secret. Et voilà.
Parce que ça nous aussi, avec David, on vous aime beaucoup, mais il y a moins de tendresse, j'ai l'impression, de votre part.
Oui, je sais pas, j'ai l'impression que la réciprocité n'est pas là, n'est pas au rendez-vous.
La force de l'habitude.
Sans doute.
On se voit tous les jours, quand même.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui croient en leur sœur comme personne, pour retrouver deux garçons en qui on croit aussi. David Castel-Lopez, vous nous racontez les origines des montagnes russes.
Ouais. Pourquoi c'est des montagnes russes en plus ? Qu'est-ce qu'elles sont de russes ?
Est-ce qu'en Russie, on appelle ça des montagnes russes ?
Non.
Ah voilà.
On appelle ça Amerikanski, je sais pas quoi.
Ah, oui, c'est des montagnes américaines. Ouais. Ah, c'est drôle. Mais avant ça, comme chaque jour, mes aïeux quelle époque. Aujourd'hui, on parle de la civilisation Chaco avec vous, Gavin Clemente Ruiz, et on remonte 12 siècles en arrière pour découvrir Chaco Canyon, un lieu où ont vécu les ancêtres de peuples encore bien présents aujourd'hui. Mais dites-moi, où se situe donc ce Chaco Canyon ?
Alors, Stéphane, on vient pas par hasard à Chaco Canyon. C'est au nord-ouest du Nouveau-Mexique, entre Albuquerque et Farmington. Ce site est un peu loin de tout, faut bien le reconnaître. Il n'y a rien à moins de 1h30 de route.
C'était un lieu de vie, donc, vers un peu avant l'an 900, vers l'an 850.
Exactement, c'est ça. C'est même le moment de son apogée, jusque vers 1200. Ce site de Chaco Canyon, en fait, il s'étend sur 137 km². Ah oui. Il a été un grand centre de peuplement, un important carrefour économique et même le plus grand centre précolombien au nord du Mexique. Alors, des milliers de personnes vivaient là, on y pratiquait le commerce, il y a des traces de coquillages qui ont été retrouvées, il y a des pierres turquoises aussi et du cacao dans des poteries qu'on a pu retrouver en faisant des fouilles. On a retrouvé aussi des ruines d'habitations et des ensembles un peu plus religieux. Tout a été classé au patrimoine de l'UNESCO.
Et à quoi ressemble l'architecture des lieux, Gavin ?
Alors, quand on vient sur place, aujourd'hui, on aperçoit les vestiges de ces grandes maisons en pierre rouge, orange. Alors, c'est très bien ajusté, ça a des formes trapézoïdales, 3-4 étages, reliées entre elles par des routes encore bien visibles. Alors, monter si haut pour ces habitations, c'était assez fort hein, pour l'époque, quand on pense à ce qu'on faisait, par exemple, chez nous. Était-il aidé par des animaux ? Était-il aidé par des pierres pour faire rouler tout ça ? Mystère, on n'en sait rien. Alors le plan au sol, souvent, ça représente un grand D. Certaines de ces maisons de Chaco Canyon sont pour certaines semi-enterrées, interconnectées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles étaient bâties en suivant des orientations astronomiques, en suivant le soleil et la lune, tout ça au milieu de montagnes sacrées. Alors, les archéologues se demandent d'ailleurs aujourd'hui si ces demeures qu'on peut visiter étaient des lieux d'habitation ou bien juste des lieux d'hébergement au moment des cultes.
Mais les cérémonies de cette civilisation Chaco étaient des cérémonies importantes ?
Oui, très importantes. Elles rythmaient même la vie quotidienne de ces peuples indiens. Tout autour de ces maisons, on a retrouvé des hôtels. Là, c'est A-U-T-E-L hein, pour les cultes. Des tumulus, des montagnes sacrées. À Pueblo Benito, qui est le cœur de cette civilisation Chaco, il y a aussi des stèles funéraires avec des traces de plumes de dinde, des carquois de flèches, des flûtes. Oui, un peu comme ça, oui, c'est ça. Il y a aussi des traces de pétroglyphes. Encore une fois, ce mot, ça va devenir le mot de cette chronique. Des dessins, ce sont des dessins qui sont dans la pierre, avec, où on voit des oiseaux ou alors d'autres animaux qui se rapporteraient au clan de ces peuples, mais aussi des kivas.
Alors, moi, je sais ce que c'est une kiva, mais est-ce que vous pouvez le dire pour les autres ?
Quel moqueur. La kiva, pour les autres, alors, c'est un lieu de rassemblement pour le culte de ces peuples amérindiens. Alors, là, c'est de forme circulaire, parfois semi-enterrée. Ça fait 40 mètres de diamètre. C'est un lieu de recueillement, en fait, la kiva, en pierre. On y accède par une échelle. Et on rentre à l'intérieur de la kiva. De nombreux symboles sont associés à cette kiva. Par exemple, la sortie de la kiva où on va ressortir par l'échelle pour retrouver la lumière. Et donc, il faut avoir pas mal d'imagination quand même aujourd'hui hein, pour être sur place. Mais il y a pas mal d'historiens et il y a pas mal de petits livrets qui sont distribués sur place. Il y a des guides aussi hein, qui peuvent vous aider. Alors, ces kivas sont à ciel ouvert aujourd'hui, mais sur tout ce territoire des États-Unis. Et tout est particulièrement bien conservé.
Le site n'est plus du tout habité aujourd'hui.
Alors non, aujourd'hui il n'y a plus trop d'habitations, il y a 2-3 maisons autour, mais c'est vraiment, c'est beaucoup moins qu'à l'époque. Il a été déserté, notamment en raison du climat, hein, il fait très très chaud, et aussi en raison des tensions entre les peuples. C'est avant tout un site archéologique, hein, on l'étudie, on le visite. N'oubliez pas votre bouteille d'eau quand vous irez sur place, parce qu'il fait très 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 chaud, ça monte parfois à plus de 50. Il fait partie des parcs nationaux américains depuis le 20e siècle. C'est aussi parfois aujourd'hui le lieu de cérémonies de populations d'origine indienne qui viennent pour invoquer l'esprit de leurs ancêtres qui vivaient là autrefois. Et oui, chaque année, il y a des cérémonies, pas des festivals, mais de la musique, on joue et on essaie d'invoquer l'esprit de ces peuples qui vivaient là déjà sur place vers l'an 1000.
Des cérémonies en plein désert au sud-ouest des États-Unis, au milieu des vestiges archéologiques de la civilisation Chaco. Mais aïeux, quelle époque hein. Merci Gavins pour la découverte de ce lieu archéologique du 9e siècle.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Gavins Clemente Ruiz, et surtout avec vous, David Castel-Lopez.
Oui. Je serais prêt à me séparer d'une somme d'argent considérable, je crois, pour pas avoir à fréquenter les montagnes russes. Vraiment, je vois pas le plaisir qu'il peut y avoir à sentir ces organes internes qui cherchent à sortir de votre corps comme ça. Je comprends pas. Et pourtant, les parcs d'attractions dans le monde, ils attirent des millions de gens chaque année, des gens qui donnent une partie de leur petit salaire pour dévaler des pentes artificielles à 150 km/h, faire des loopings, tomber depuis des hauteurs incroyables en étant vaguement sécurisé aux épaules, ou se balancer en hurlant sur des pendules grands comme des immeubles de 4 étages. Alors qu'à la place, ces gens, avec leur argent, ils pourraient acheter par exemple des petits gâteaux au sucre ou du sirop d'érable. Mais non, ils font ces trucs n'importe quoi. Bon, ça me dépasse, mais en même temps, ça me permet de m'émerveiller devant les diversités de la nature humaine. Les montagnes russes. Pourquoi on appelle ça des montagnes russes? Qu'est-ce qu'elles ont de russe, ces montagnes? Eh bien, à l'heure actuelle, on peut le dire, pas grand-chose. Mais les lointains ancêtres des montagnes russes, dont elles descendent, si. À partir des 15e et 16e siècles en Russie, en particulier sur les bords des fleuves, on construisait l'hiver d'énormes structures en bois de 20 mètres de haut. On mettait de l'eau sur les planches qui gelaient super vite, parce que l'hiver en Russie, ça caille, ça rase. Et on s'élançait sur des blocs de glace évidés, des fois à plus de 80 km/h. Alors j'ai vu des gravures de ces structures. Ça a l'air dangereux à un point complètement débile. Parce que les blocs de glace, ils n'étaient pas maintenus sur une trajectoire précise. Oui. Vous voyez ?
Il n'y avait pas de garde-fou. Il
y en avait un petit peu sur les côtés, mais ce n'était pas des rails. Donc en fait, on pouvait tourner. Si par hasard, on tournait un petit peu trop tôt parce qu'on se déstabilisait, on pouvait se prendre la rambarde de protection dans le visage à 80 km/h, ou carrément sortir de la piste et s'écraser sur le sol comme une grosse merde. Et puis, au XVIIIe siècle, est arrivée une dame très importante en Russie qui s'appelait Catherine II. Vous connaissez Catherine II, Stéphane,
hein, qui la grande tsarine.
Exactement. Cathy, votre petite Katyushka. Vers la fin de sa vie, Cathy, donc impératrice de toutes les Russies, elle s'est dit j'aime bien. Elle avait fait un petit peu le truc l'hiver, là, mais elle se disait j'aime bien glisser l'hiver, mais j'ai bien envie aussi de pouvoir avoir des sensations fortes l'été également. Et elle a fait construire dans son palace une immense colline de glisse avec des chariots qui dévalait des parcours de plusieurs centaines de mètres sur des sillons prévus à cet effet. Donc là, il y avait un petit truc en plus niveau sécurité. Et ces chariots, ensuite, ils étaient ramenés à leur point de départ par des chevaux. Et là, on peut le dire, on est déjà sur quelque chose de très cousin de la montagne russe. Au début du 19e siècle, les montagnes à chariots de Cathy, elles se sont exportées en France. Il y a deux montagnes russes qui ont ouvert en particulier. Une près de l'actuelle place de l'Étoile à Paris qui s'appelait les Promenades Aériennes, très bien trouvé comme nom, et l'autre à Belleville qui s'appelait précisément les Montagnes Russes de Belleville, qui sont les premières, elles, à avoir eu des rails. Mais bien sûr, ce n'est ni la France ni la Russie qui ont inventé la montagne russe moderne. C'est comme à peu près toujours quand il s'agit des choses d'amusement, les États-Unis. Au début du 19e siècle, il y avait en Pennsylvanie une mine de charbon avec un système de petits trains qui permettait de déplacer le charbon. C'était un train qui fonctionnait grâce à la gravité et qui pouvait aller jusqu'à 80 km/h. Et il emportait toujours, ce petit train, en plus du charbon, la descente des mules. Des mules qui, une fois que le petit train était arrivé en bas, remontaient le chariot pour qu'il soit à nouveau chargé de charbon. Et puis à un moment, les opérateurs de la mine, ils se sont dit « Tiens, quand on l'utilise pas pour le charbon, on n'a qu'à faire payer les gens pour dévaler la pente. » Et ça a tellement bien marché qu'à partir de 1870, eh bien, le petit train, il n'a plus servi qu'à ça. À partir de là, les Américains, ils ont fait maturer toutes les choses qui font la montagne russe moderne. La boucle en particulier, avant c'était des trucs qui allaient jusqu'à un endroit, il fallait remonter les chariots. Mais eux, ils ont eu cette idée qui consiste à faire en sorte que le train revienne à son point de départ sur une boucle par la seule force de la gravité. C'est eux aussi qui ont inventé le looping au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, les États-Unis, ça reste la patrie par excellence de la montagne russe. C'est là en particulier qu'il y a les plus hautes montagnes russes du monde, celle du célèbre Six Flags Great Adventure dans le New Jersey, qui font 139 mètres de haut. C'est plus haut que le deuxième étage de la Tour Eiffel. On dévale le truc à Six Flags pratiquement à la verticale, à plus de 200 km/h. Pour moi, c'est le cauchemar total, absolu. Mais il y a des gens qui payent très cher pour le faire.
Et comment on dit montagne russe en Amérique ?
Alors je sais,
c'est roller coaster.
C'est aux États-Unis, c'est roller coaster. C'est un mot qui est roller très utilisé en Russie aussi, mais en Russie, on dit aussi, je ne sais plus comment on dit montagne en Russie, mais il y a Amerikansky, je ne sais pas quoi. Donc fait, les Russes, alors que quand même ça vient de chez eux, ils appellent ça les montagnes américaines. En fait.
Très bien. Merci beaucoup. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr où vous pouvez également écoutez toutes nos émissions, ça, oui. C'est important. Voilà, historiquement vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui sont maudits. L'héritière de la célèbre marque des carabines, Sarah Winchester, confrontée toute sa vie aux fantômes de ceux qui ont été tués par l'arme familiale et qui a trouvé une manière de les piéger. Puis un roi maudit et le premier de la lignée, Philippe le Bel. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un roi, mais du ballon rond maudit, lui aussi.
Oui, le footballeur Aaron Ramsey et son étrange malédiction. Dès qu'il marque un but, une célébrité meurt le lendemain.
Ah bon ? Il joue ce week-end ?
Peut-être.
Ah ben, j'espère être toujours là lundi. Enfin, je ne suis pas une célébrité.
Oh, si.
À lundi, les amis.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.